autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver. Bonjour, chers amis auditeurs, ravi de vous retrouver autour de notre table ronde avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique, venus comme chaque mois avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. Vous qui êtes loin d'ici, nous sommes en direct avec Cécile Estienne de Cerveau et Psycho. Bonjour Cécile.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
En direct également avec Carole Châtelain de Science et Avenir. Bonjour Carole.
Bonjour à tous.
Thomas Cavaillé-Foll, bonjour.
Bonjour Caroline.
De Science et Vie et Philippe Pageot de La Recherche. Bonjour Philippe.
Bonjour à tout le monde.
Merci d'être là pour cette ultime table ronde de l'année qui débutera d'ailleurs par un petit bilan forcément subjectif des recherches et des découvertes les plus marquantes. On se demandera aussi comment et pourquoi faire confiance à la science. Il sera aussi question dans le désordre de pédagogie alternative, de la personnalité des insectes, oui des insectes, et d'objets mathématiques pour expliquer le monde autour de la question comment la science infuse et se diffuse depuis les laboratoires jusque dans vos rédactions et sur les bonnes ondes de RFI. Bienvenue. Bienvenue donc autour de notre dernière table ronde de l'année 2019, une année des sciences marquée par d'étonnantes découvertes archéologiques, paléontologiques qui élargissent encore notre album de famille, marquée aussi par la première photo d'un trou noir. Alors est-ce que c'est cette image-là que vous gardez de l'année ? Quels événements, quelles découvertes, quelles recherches vous ont marqué ? Qui veut commencer ce tour de table ? Philippe Pageot ?
Sur le trou noir, effectivement, ah, ça, oui. Moi, c'est l'image qui m'a marqué cette année, c'est... Faut voir à quel point c'est un exploit extraordinaire. En fait, on a fait un télescope qui a la taille de la Terre. Donc déjà, faut le
oui,
faire.
Rien que ça, c'est un exploit.
Rien que ça, c'est un exploit. Et pour faire ça, on peut pas le faire dans l'optique. On l'a fait en radio et donc avec des radiotélescopes qui sont à différents endroits du globe, au Chili, au pôle sud, en Europe, aux États-Unis. Et grâce à ça, on fait un télescope énorme avec grâce auquel on a vu pour la première fois. Pas un trou noir directement, mais l'ombre, la silhouette du trou noir, en quelque sorte. Et donc, c'est un travail avec 200 personnes, observation pendant un an. Il a fait des monceaux de données, des hexaoctets de données qu'il a fallu traiter pour finalement avoir cette image qui n'est peut-être pas extrêmement impressionnante.
Parlante comme ça, mais qui permet, enfin, tout à chacun, voilà. On peut voir cette image d'un trou noir inimaginable. Image, voilà. Et puis, du coup, évidemment que ça relance toute la recherche autour des trous noirs.
Autour des trous noirs et autour tout ce qui est la relativité générale et tous ces astres mystérieux. Donc, c'est vraiment extraordinaire.
Et donc, il va y avoir de la suite autour de ces trous noirs.
Certainement.
On remonte le temps aussi avec des découvertes archéologiques, paléontologiques, Carole Châtelain, qui vous ont marqué, je crois, cette année.
Ah oui, oui. Enfin, parce qu'il s'est passé énormément de choses l'année écoulée. On pourrait parler de beaucoup d'événements. Je pense à l'incendie de Notre-Dame à Paris, par exemple. Mais bon, puisqu'il faut sélectionner, c'est aussi la découverte d'une nouvelle espèce humaine par un Français qui a le mérite d'être un chercheur vraiment sympathique en plus.
C'est-à-dire
qui s'appelle Florent Détroit.
Florent Détroit, pardon. Oh là là, que nous avons reçu ici même en plus.
Et il est au Muséum national d'histoire naturelle.
Et qui a découvert l'homme de Luzon.
Et qui a découvert l'homme de Luzon, donc au Luzonensis, qui est un lointain cousin d'Homo sapiens, hein, qui a plus de 50 000 ans, et sa découverte a été annoncée le même jour que d'ailleurs la photo du trou noir. Et donc, il est temps de le redire. C'est une découverte exceptionnelle qu'il a faite aux Philippines. Et ce chercheur a surtout eu le mérite de vraiment vérifier toutes ces données. C'est un chercheur très scrupuleux et vraiment, sa découverte fait date.
Donc l'homme de Luzon, et je rappelle son nom, hein, puisque je me suis trompée, c'est Florent Détroit. Vous pouvez le googler et même le réécouter, puisqu'il avait été notre invité dans cette émission. Côté archéo-paléo, il n'y a pas que du côté des Philippines, Thomas Cavaillé-Foll, qui a eu des découvertes cette année.
Oui, effectivement, 2019. Très, très récemment, là, il y a une petite statuette qui a été découverte dans la grotte de Denisova, qui ressemble à un petit lion, elle est toute petite. Et cette statuette, alors l'étude n'est pas encore sortie, je l'attends assez impatiemment, mais elle est vraiment incroyable parce qu'elle a donc à peu près 40 000 ans, et c'est le tout début du coup de l'art figuratif. C'est là que commencent à apparaître les peintures des grottes de Chauvet, par exemple, en France, ou même le Banteng, qui avait fait date aussi l'année dernière à Bornéo, en Indonésie, qui est devenue la première peinture. Et en fait, on voit apparaître un peu partout dans le monde, au même moment, par des populations différentes qui ne se parlent pas, en fait, un art figuratif. Avant, il n'y avait que des symboles, des petits symboles, donc on ne savait pas ce que c'était. Et là, on voit apparaître l'art de ce qu'on voit, vraiment des animaux. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est exceptionnel d'autant plus qu'on l'a retrouvé dans la grotte de Denisova. Donc on ne peut pas être sûr de qui l'a produit, cette petite...
Quelle espèce humaine l'a produite,
effectivement, parce que Sapiens se baladait dans le coin, mais il y avait des Denisova encore dans cette grotte. Et là, si jamais c'était Denisova qui l'a fait, ce serait la première preuve d'un art figuratif fait par une autre espèce que nous. Parce qu'on sait que Néandertal faisait de l'art. On a retrouvé par exemple dans une grotte de Gibraltar une gravure en forme de hashtag ou de dièse selon votre génération et d'autres peintures abstraites en fait. Mais de l'art figuratif, c'est la première fois qu'une autre espèce montrerait, prouverait qu'elle était capable d'en faire.
Et c'est assez merveilleux. Quand sur Terre, il y a eu d'autres espèces humaines et d'autres espèces qui ont fait de l'art. Alors, vous voulez rebondir, Cécile Lestienne? Oui, j'ai bien vu votre geste. Alors, allez-y, rebondissez.
Oui, moi aussi, je suis absolument fascinée par la saga anthropologique de Denisova. Quand on pense que cette espèce, on l'a découverte en 2010 uniquement à travers des fragments d'ADN dans un bout de phalange dans la grande Denisova, et qu'aujourd'hui, d'autres recherches ont montré qu'effectivement c'était une espèce très importante. On dit même que c'était l'équivalent de Néandertal, mais du côté de l'Asie, qu'on en a retrouvé ces gènes dans beaucoup de populations asiatiques, notamment chez les Papous, qu'on a retrouvé une mâchoire il y a quelques mois aussi, qui montre qu'il était capable de vivre il y a déjà très longtemps en haut de l'Himalaya. Enfin, moi je trouve ça absolument fascinant.
Bon, allez, on retient un trou noir, un homme de Luçon et Denisova à suivre pour cette année 2020 autour de la question comment la science infuse et se diffuse, comment les mathématiques explique le monde. Maintenant, c'est la une et le dossier de Science et Avenir, Carole Châtelain. La nature est un livre écrit en langage mathématique, disait déjà Galilée. La preuve dans cet extrait d'un documentaire de France 5.
Il y a des règles. Des règles mathématiques qui régissent la croissance en spirale d'une coquille ou la forme des feuilles et des arbres. Le nombre des pétales d'une fleur est tout sauf aléatoire. De même que l'agencement des plumes sur les ailes d'un oiseau. Rien n'est dû au hasard. Ce n'est pas une coïncidence si les graines et les fruits sont souvent sphériques. Si les toiles d'araignée ont la forme que l'on connaît. Ou si les fourmis se déplacent comme elles le font. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que tout obéit à un certain principe d'organisation. Sauf peut-être la disposition des écailles sur la mâchoire des crocodiles. À première vue, la géométrie naturelle semble moins parfaite que la nôtre. Mais peut-être est-ce notre géométrie qui est trop rigide ?
Qu'en pensez-vous, Carole Châtelain ? Comment les mathématiques expliquent le monde ? C'est le dossier de Science et Avenir, beau dossier hein, de ce mois de décembre.
Oui, nous avons eu l'idée de revenir sur ce sujet qui est au cœur des préoccupations depuis très longtemps. Il y a même débat de savoir si les mathématiques expliquent vraiment le monde, c'est-à-dire est-ce qu'on les découvre au fur et à mesure qu'on les invente en quelque sorte, ou est-ce qu'elles préexistent. Donc ça, c'est un vaste débat. Mais en fait, nous avons voulu donner cette clé de compréhension de l'univers qui nous entoure, parce que notre dossier, il est extrêmement concret. Hein. Nous sommes allés voir des exemples de ce que...
À toutes les échelles.
Alors, évidemment, à l'échelle de l'univers et puis à l'échelle moléculaire, parce que les lois mathématiques s'y retrouvent. Si on prend, par exemple, à l'échelle de l'univers, on s'aperçoit qu'il suffit de quelques formules mathématiques hein, qui peuvent tenir sur les doigts de la main et qui s'appellent des constantes et qui forment des piliers pour expliquer l'univers. Par exemple, si on veut comprendre ou définir notre univers par ces constantes, il y en a trois. Hein. Il y a la constante qu'on appelle de la structure fine hein, qui permet de définir l'interaction entre la lumière et le mouvement. Et puis ensuite, il y a un rapport entre les masses des protons, de l'électron, etc. Très peu de données suffisent à construire comme un squelette notre univers. Donc ça, c'est pour les grandes échelles.
L'infiniment grand.
Mais au niveau de la particule, au niveau moléculaire, c'est la même chose. Et nous sommes allés voir, en fait, ce que ça exprimait dans les objets du quotidien qui nous entourent. Alors, on retrouve ça dans les plantes, par exemple. Si on prend une feuille de tournesol, enfin une fleur de tournesol, on s'aperçoit qu'elle forme des spirales inversées. Et si on compte le nombre de petits points sur cette fleur, on s'aperçoit qu'on est toujours dans ce qu'on appelle une suite de Fibonacci, c'est-à-dire que les nombres ne sont pas
disposé au hasard. Alors pourquoi là, l'explication.
Le pourquoi on n'y est pas encore. Mais tout est nombre quand même dans l'univers, quelque part.
Alors tout est nombre et aussi beaucoup de choses sont symétries aussi. C'est ce que nous sommes allés expliquer. Nous avons pris aussi des exemples en biologie. Pourquoi est-ce que nous sommes, nous, les êtres vivants, pour la plupart symétriques? Ça ne s'explique pas que de façon génétique. Ça s'explique par des contraintes aussi physiques. Par exemple, si nous, les humains, nous sommes, et puis un certain nombre d'êtres vivants, nous sommes latéralisés, c'est que...
Nous avons droite et gauche.
Nous avons droite et gauche, c'est qu'il fallait à un moment donné fuir ces prédateurs par la droite ou par la gauche. Donc il fallait qu'on ait les mêmes fonctions qui permettaient cette survie.
Vous vous arrêtez aussi sur quelques fractales, enfin genre d'images qui sont toujours... qui font un peu rêver aussi, qui sont... plus on les regarde dans le détail, et plus c'est un peu la vache qui rit, quoi. Plus,
exactement.
Plus on regarde dans le détail, et la même chose se reproduit à toutes les échelles.
Oui, tout à fait. On est allé effectivement expliquer les dernières découvertes dans ce domaine, et notamment on explique un objet tout à fait étonnant qui s'appelle l'amplituèdre et qui est un outil mathématiquement et potentiellement du moins révolutionnaire, parce qu'il pourrait définir notre univers. C'est-à-dire qu'on arriverait là à représenter l'espace et le temps dans cette figure géométrique.
Voyage au-delà des apparences. Comment les mathématiques explique le monde, dossier complet à lire, à regarder aussi, puisqu'il y a des superbes photos dans Science et Avenir de ce mois de décembre, dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, quelques exemplaires à vous faire gagner. Si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, avis aux amateurs de maths et musique, le groupe Mustang sur RFI, c'est mathématiques.
En mathématiques, en mathématiques, on raisonne en mondes abstraits, on ordonne les nombres et signes, tout s'aligne et c'est parfait. Ici rien n'est triste, harmonie et musique. Existe mathématique. En mathématique, en mathématique, on raisonne en mondes abstraits où personne ne trompe ou triche. C'est parfait. Ici rien n'est triste, harmonie et musique. Ici Dieu existe, mathématique.
Mathématiques avec le groupe Mustang sur RFI, autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque dans le fabuleux monde des insectes. Vous nous faites découvrir, image à l'appui dans Science et Vie, Thomas Cavaillé-Folle, que les insectes aussi ont une personnalité. Il y a des scarabées qui sont plus curieux que d'autres, des cafards, oui, des cafards plus audacieux, et même des abeilles asociales, carrément. Comment les chercheurs en sont-ils arrivés là à nous remettre et à tout remettre en question? Écoutez voir Martin Jurfa, spécialiste du cerveau des abeilles, qui a démontré notamment leur capacité à reconnaître le zéro et à compter. Les abeilles ? Oui, les abeilles.
Mais la question intéressante serait, est-ce que les abeilles ont une conscience ? Est-ce qu'elles savent qu'elles sont elles, avec une histoire particulière qui peut-être différer d'une abeille à l'autre, parce qu'elles n'ont pas forcément toutes la même expérience ? Elles n'ont pas toutes fait les mêmes vols de butinage, parcouru les mêmes endroits, etc., etc. Est-ce qu'elles arrivent à intérioriser cette expérience pour créer une conscience d'elles-mêmes ? Pour l'instant, on n'est pas là, mais on a conçu quelques idées pour aller dans ce sens-là. Effectivement, c'est une question importante parce que, comme pour tout animal, ça soulève encore une fois, et on revient encore à la même problématique, si un individu est conscient, a une conscience, quel est mon rapport par rapport à lui ? Quelle est la façon dont je m'engage ou j'engage des rapports quotidiens avec cet animal ? Probablement avec un respect tout à fait différent par rapport à ce que j'ai fait avant la démonstration de cette conscience.
Ont-elles conscience d'elles-mêmes, les abeilles, comme les autres insectes ? En tout cas, les abeilles ont une personnalité, Thomas Cavalier-Foll. C'est une des surprises de ce dossier de Science et Vie. Alors, photos et images à l'appui.
Oui, c'est assez incroyable. Il l'a très bien dit. En fait, chaque insecte, mine de rien, a son propre vécu. On ne sait pas encore si ça modèle une conscience, mais en tout cas, ça modèle bien une personnalité. On ne parle pas ici, bien sûr, de personnalité, d'idées reçues données à une espèce en particulier, comme le faisait La Fontaine avec, par exemple, la fourmi est travailleuse. Non, on parle d'individus au sein d'une même colonie, au sein d'une même espèce d'insectes. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, certains cafards, par exemple, sont particulièrement audacieux. Ils vont aller s'aventurer dans les endroits où d'autres cafards n'iraient absolument pas. Certaines abeilles sont asociales.
Alors que c'est une espèce sociale par excellence.
Alors que c'est l'espèce sociale par excellence que, par exemple, les chercheurs ont testé, les ont mis devant des larves de rennes. Et c'est quelque chose quand même qui, chez l'abeille, provoque des comportements extrêmement parentaux, protecteurs. Et bien certaines abeilles, 15% d'entre elles pour être exact, font comme si de rien n'était, ne sont absolument pas intéressées à s'occuper de cette.
Elles sont asociales et indifférentes, celle-là. Ça, c'est vraiment un caractère peut-être forgé par effectivement leurs expériences, la mémoire.
Exactement. Parce que c'est ça qui est extrêmement intéressant. Nous, on admet la personnalité, en fait, chez l'homme. On l'admet chez certains animaux aussi, encore pas tous. Et là, on se rend compte qu'en fait, même les insectes ont des traits donc particuliers, une personnalité, et que c'est d'autant plus intéressant que les insectes sont parfois des clones. Complètement, génétiquement, ce sont les mêmes. Et pourtant,
pourtant, il y a quand même des différences. Deux clones sont différents.
Peuvent être complètement différents. Et c'est là où on en revient au vécu, en fait. Et grâce à ce genre de recherche, chercheurs ont pu déterminer qu'en fait, la part de la génétique dans la personnalité n'était que de 20 à 30%. Le reste n'est que de la vie. Seconde chose extrêmement importante.
De l'acquis, en fait.
De l'acquis, exactement. C'est toujours cette différence entre l'acquis et l'inné, en fait. Et on voit que l'acquis est beaucoup plus important, en tout cas pour la personnalité, que l'est l'inné. Et ça paraît logique. Ils ont par exemple montré que des cafards qui manquent de ressources alimentaires dans leur jeunesse, dans leur petite vie de bébé cafard, en fait, ils vont se montrer plus audacieux et prendre plus de risques ensuite dans le futur, peut-être pour aller chercher plus de nourriture. C'est quelque chose, c'est un souvenir.
Oui, c'est logique, puisqu'ils expérimentent, puisqu'on montre qu'ils ont une mémoire, puisqu'ils apprennent.
Exactement, il y a quelque chose de très fort qui se fait. Et donc, on montre autre chose encore plus très impressionnante aussi, c'est qu'en fait, on a besoin d'avoir un énorme système nerveux pour avoir une personnalité. Au contraire, la personnalité, elle émerge des plus petits cerveaux. Au final, un cerveau un million de fois plus petit que le nôtre, celui d'une drosophile, par exemple, est capable d'engendrer une personnalité. Et ça, c'est assez incroyable. On avait l'impression, nous, qu'à un certain degré de complexité, même, pouf, tout d'un coup, s'émergeait une personnalité. Et en fait, c'est complètement faux.
C'est complètement faux. Et ça va même extrêmement loin, puisqu'il y a un petit encadré sur les bactéries, elles aussi, leur caractère. Alors là, où allons-nous
Là, effectivement, certaines bactéries se mettent en dormance, vont chercher différents sucres, par exemple, ou sont plus agressives que d'autres. Est-ce que c'est un trait de personnalité ? On peut commencer à parler de personnalité. Mais ce qui est aussi assez fort, c'est que il va falloir prendre en compte la personnalité, en fait, dans l'étude des écosystèmes. Et ça, c'était quelque chose qui n'avait pas été fait jusqu'ici. On prenait une espèce, on l'imaginait, on disait qu'elle se comportait ainsi. Et en fait, non. Différentes colonies d'une même espèce, en fonction de la somme des personnalités de ces petits individus, va se comporter autrement.
Parce que leur intelligence collective, elle est faite d'une multitude de personnalités et d'individus.
Exactement. Donc, en fait, c'est une donnée qu'on avait complètement, même pour les petits mammifères, par exemple. En fait, là, il y a un exemple très, très joli dans ce dossier de Vincent Noriga, c'est certains campagnols, par exemple certaines souris, sont plus gloutonnes que d'autres. Alors, est-ce qu'elles vont prendre plein de petites graines et les mettre dans un endroit, ou est-ce qu'elles vont les manger, est-ce qu'elles vont les disperser un peu partout? En fait, l'écosystème entier va être impacté
par les personnalités de ces petits animaux. Exactement. Extraordinaire, c'est une face cachée de la biodiversité reste à explorer.
À peine.
Et puis qui fait aussi qu'on ne regardera plus tout à fait les insectes de la même manière. Après avoir lu cet étonnant dossier « Insectes, à chacun sa personnalité » dans Science et Vie de ce mois de décembre, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditeurs, si vous nous le demandez, par mail ou sur notre page Facebook. En attendant, allez, on s'arrête sur l'audace de la blatte. Thomas Fersen sur RFI.
Dans ma chambre d'hôtel, je souffle la chandelle. J'entends un petit bruit, c'est une blatte. Cet hôtel est infect, pourri d'insectes. Cette petite blatte-là me gêne. Deux heures après minuit, la blatte est endormie. J'entends un petit bruit, c'est une mythe, cet hôtel est infect, pourri d'insectes, cette petite mythe-là me gêne. Longue la nuit à fumer dans mon lit, à allumer la bougie au moindre bruit. C'est l'auberge espagnole, toutes ces bestioles n'existent que dans ma tête.
De Thomas Fersen sur RFI et sur notre table ronde mensuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique autour de la question « Pourquoi faire confiance à la science ?» Vraie question d'actualité, c'est dans la recherche ce mois-ci, Philippe Pageot. Question soulevée par l'historienne des sciences à l'université de Harvard, Naomi Oreskes, qui vous a accordé un grand entretien. Je vous propose de l'écouter. Naomi Oreskes, extrait de sa conférence TEDx.
Every day we face issues.
Tous les jours, nous faisons face à des problèmes comme le changement climatique ou la sécurité des vaccins, pour lesquels nous devons répondre à des questions dont les réponses s'appuient fortement sur l'information scientifique. Les chercheurs nous disent que le monde se réchauffe. Les chercheurs nous disent que les vaccins sont sûrs. Mais comment savoir s'ils ont raison? Pourquoi devrions-nous croire en la science? Le fait est qu'en réalité, beaucoup d'entre nous ne croient pas en la science. Les sondages d'opinion publique montrent sans cesse qu'un pourcentage significatif de la population américaine ne croit pas que le réchauffement climatique est dû aux activités humaines, ne croit pas qu'il y a une évolution par sélection naturelle et n'est pas convaincu par la sécurité de la vaccination. Pourquoi devrions-nous croire en la science ?
Pourquoi, Philippe Pageot, et surtout comment nous redonner confiance en la science? Qu'est-ce que la vérité scientifique? Question soulevée par Naomi Oreskes dans cet entretien qu'elle a accordé dans la recherche à Sylvain Guibaud sur cette vaste question vraiment d'actualité.
Hein. D'abord, j'aime pas le terme vérité scientifique. Il y a un aspect gênant, l'aspect de vérité, en disant on va vous imposer la vérité. En fait.
Oui, c'est le doute en science qui prime.
En science, il y a des modèles qui marchent le mieux possible à un moment donné, mais ces modèles peuvent varier à d'autres moments. Alors en fait, ce que fait Naomi Oreskes, c'est qu'elle analyse effectivement ce qu'est la science et ce qu'elle n'est pas. Et notamment, elle parle de... Alors, une des choses que pour elle n'est pas, il n'y a pas une méthode scientifique. Il n'y a pas la méthode scientifique. Ça ne suffit pas, disons, à avoir confiance en la science. Elle prend l'exemple, par exemple, du système astronomique de Ptolémée, qui a quand même été le système en vigueur pendant... des années. Alors ce système, je ne vais pas dire qu'il est vrai, mais disons qu'il est plutôt, il fonctionne. On sait aujourd'hui qu'il est faux, qu'il ne fonctionne pas. Et pourtant, il permet de prédire des tas de choses. Il permet de prédire des éclipses. Donc si on se bat simplement sur ces hypothèses déductives, ça ne fonctionne pas. Donc la science, ce n'est pas que ça. Il y a aussi l'idée de la réfutation par l'expérience qui a été proposée par Popper, qui est un historien des sciences bien connu. Et ça ne décrit pas non plus vraiment le travail de la recherche scientifique. En fait, les scientifiques, en fait, ils n'essaient pas de falsifier une théorie, ils essaient à l'inverse de collecter autant de données qu'ils peuvent en faveur de leur idée. Alors,
qu'est-ce qui fonctionne, c'est une échelle.
Comment fonctionnent les scientifiques? En fait, ils testent leurs idées au sein de la communauté scientifique, en fait. Hein. Et vraiment, Naomi Oreskes insiste que l'activité scientifique, la recherche scientifique, c'est une activité sociale.
Collective.
En fait. Et du coup, la tactique, par exemple, on prend l'exemple des climato-sceptiques qui créent l'illusion d'un débat scientifique, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Il y a quelques personnes, effectivement, qui sont isolées. Mais de la même façon qu'il y a des personnes qui disent la relativité générale d'Einstein, c'est n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Alors que tous les indices scientifiques, tous les tests qui ont été faits depuis 100 ans, vont dans ce sens-là.
Donc c'est collectivement, quand on peut remettre en question régulièrement la véracité d'une théorie, et c'est quand ça fait consensus, c'est ça?
Ça fait consensus, et ça peut prendre du temps. Effectivement, la dérive des continents en est un autre exemple. La dérive des continents, elle était proposée en 1910 par Wegener. Il a fallu attendre 1976-68. C'est un Français, Xavier Le Pichon notamment, qui a apporté des indices très forts en faveur de la dérive des continents. Et donc, ça peut prendre énormément de temps. Et donc, il ne faut pas...
Ce que dit aussi Naomi Oreskes, c'est vous dites vous-même que la science peut partir de travers, mais que finalement, la solution, c'est le consensus scientifique. Plus les scientifiques sont nombreux à refaire l'expérience, revérifier, remettre en doute, plus au bout d'un moment, il y a un consensus scientifique.
Elle s'auto-corrige. Voilà, elle s'auto-corrige et ça fonctionne bien. Et on peut pas dire qu'un scientifique n'a pas de préjugés. Il faut au contraire dire qu'on peut avoir des préjugés. Nous sommes des humains, ça peut exister. Hein.
Mais il ne s'agit pas de croyance.
Voilà, la science a des implications sociales, politiques ou morales qu'il ne faut pas balayer sous le tapis, il ne faut pas s'en cacher. Mais finalement, effectivement, tout ce que je viens d'expliquer sur les tests des idées, fait qu'une idée scientifique finit par émerger au bout d'un certain temps et qu'il y a des consensus qui se mettent en place.
Et juste, c'est très important de le dire ou d'écouter ce que dit ou de lire ce que dit Naomi Oreskes aujourd'hui, parce qu'avec la vitesse de l'information, évidemment, les réseaux sociaux, les fake news, on peut se faire avoir encore plus facilement aujourd'hui qu'hier. Il y a quand même cette question-là.
Oui, cette accélération. C'est vrai qu'un autre exemple qu'elle prend, c'est la théorie de l'énergie limitée aussi, qui je trouve assez étonnante, où on disait qu'en fait, les femmes ne pouvaient pas être étudiées ou faire de la science, simplement parce que ça leur prenait l'énergie et donc c'était pas possible.
Mmh. Et là, une belle théorie,
voilà,
ça.
Voilà. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas du tout consensus scientifique, mais pourtant, cette théorie, pendant plusieurs années, a perduré. Et finalement, il a fallu effectivement qu'un médecin femme, du coup, souligne des insuffisances de la méthode de ce scientifique qui avait des préjugés pour refaire sortir...
C'est le doute qui est à la source finalement, c'est le consensus qui peut ensuite changer la donne. Pourquoi et comment faire confiance à la science? L'entretien avec Naomi Oreskes, c'est à lire dans La Recherche de ce mois de décembre, très instructif, dont nous avons encore quelques exemplaires à vous offrir. Chers amis auditeurs, allez, on va dire que tout se joue entre moi, mon âme et ma conscience avec Paris Combeau sur RFI.
les jours. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est tous les jours que je travaille ma cervelle et que mon âme est partie dans un bruissement d'ailes. Alors mon moi, il en a marre. Mon moi me dit qu'il en a marre. Des problèmes de conscience, il en a marre. Pour moi, la vie est un cauchemar. Car si le monde ressemble,
moi, mon âme et ma conscience, Paris Combo sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque dans les salles de classe, comment les découvertes sur le développement du cerveau, l'apprentissage, influencent ou pas les enseignants, les pédagogies alternatives bénéfiques pour le cerveau des enfants, c'est le dossier et la une de Cerveau et Psycho, Cécile Estienne. Alors parmi ces pédagogies alternatives, la plus en vogue aujourd'hui, on va dire, c'est la pédagogie Montessori. Reportage extrait des maternelles sur France 5.
8h30, jour de rentrée pour Maria, Elna, Bérénice et Omar. Âgés de 2 ou 3 ans, ils forment une communauté enfantine selon l'appellation Montessori, une communauté basée sur l'autonomie. Dès leur arrivée, ce sont les enfants qui choisissent leur activité favorite. Liberté de choisir son activité, liberté de se déplacer ou liberté de prendre la parole. Dans cette pédagogie italienne, tout est mis en œuvre pour favoriser l'indépendance et l'apprentissage par soi-même.
Merci, Kenzia.
Nous, on accompagne les enfants. On ne leur apprend rien. Notre travail, bien sûr, c'est guider l'enfant, c'est accompagner l'enfant, mais c'est aussi être un exemple.
Des enfants qui apprennent en jouant et des adultes qui s'adaptent à leur rythme, tel est le credo de la pédagogie Montessori.
Les pédagogies alternatives, comme Montessori ou Freinet, quels bénéfices pour le cerveau des enfants? Cécile Estienne, vous vous interrogez dans un dossier très complet de Cerveau et Psycho.
Absolument. On s'intéresse à ce sujet, bon, comme tout le monde, hein, parce que pour des raisons personnelles, on pouvait être intéressé par ça. Puis parce qu'on aussi, on entend tout et son contraire sur ce type de pédagogie. Hein. On dit, ah, c'est formidable, ça développe l'autonomie, la motivation, ça fait des enfants bien dans leur peau, qui savent tout. Etc. Et on entend de l'autre côté, mais pas du tout, ça fait des enfants capricieux, qui ne savent pas se tenir, qui ne savent pas apprendre et qui ne savent pas grand-chose, du coup, au bout du compte.
Et qui ne peuvent pas se réintégrer ensuite, voilà.
Mais justement, qu'est-ce que les sciences ont à dire sur ce sujet? Sachant qu'à Cerveau et Psycho, évidemment, on savait déjà que, qu'aujourd'hui, les résultats des recherches en neurosciences et en psychologie moderne vont plutôt dans le sens de ces pédagogies. Par exemple, on avait montré il y a quelques années que les zones cérébrales de la mémoire s'activent et se développent quand on est intrigué par quelque chose. Or, ce type de pédagogie est très basé sur la curiosité intrinsèque de l'enfant. Enfin, des choses comme ça. Donc, mais par ailleurs, c'est pas parce que ces recherches, ces résultats semblent aller vers ces pédagogies que ces pédagogies marchent bien. Enfin, c'est pas pour ça qu'on le sait plus exactement. Donc, on a voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait comme recherche de terrain sur le sujet, parce que bon, eh ben, il y en a pas beaucoup. Voilà. Mais il y en a quand même quelques-unes, donc c'est pour ça qu'on va.
Oui, c'est ça, comment ça descend et comment ça infuse, voilà, justement.
Pour savoir, justement, voilà, si ces pédagogies montraient quelque chose, est-ce que c'était meilleur que la pédagogie traditionnelle ou pas. Après tout, peut-être que malgré tous ces témoignages, tous ces ressentis entendus de droite à gauche, il faut savoir sur quoi ça se fonde. Parce que la science, c'est quand même basé sur une méthode, comme on le disait
et
tout à l'heure.
Oui, et pas sur une croyance. Voilà. Alors.
On a vu des différentes choses. Alors, notamment, il y a une toute récente étude là, qui a été publiée sur une classe Montessori, qui est une étude qui a été publiée à la fois par des chercheurs du CNRS et aussi par un professeur des écoles et par une jeune doctorante qui ont étudié une classe pendant 3 ans, une classe de maternelle en REP plus, hein, dans une banlieue donc assez difficile de Lyon, l'école maternelle Ambroise Croizat, voilà. Donc pendant 3 ans, ils ont pris l'école et en fait cette école, il y a à peu près 200 enfants et il y en a une moitié qui a suivi la pédagogie traditionnelle et l'autre moitié qui a suivi une pédagogie Montessori. Voilà, pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer. Alors, au bout de ces 3 ans, c'est une école maternelle, hein, donc pas primaire. Qu'est-ce qu'on peut voir c'est que... Alors, ces enfants ne sont pas plus capricieux que les autres, en tout cas, pour tout ce qui est des compétences sociales, des aptitudes sociales, savoir partager, avoir le sens de l'équité, savoir travailler en commun, ça marche. Et pour les apprentissages purement scolaires, justement... Pour ce qui est compétences liées aux mathématiques, dénombrement, savoir résoudre quelques problèmes, c'est à peu près équivalent à l'enseignement traditionnel. Dans cette étude-là, hein, bah évidemment, il faudra en faire d'autres.
Et
peut-être qu'on verrait autre chose.
Hein.
Voilà. Parce que la plupart des premières études qui avaient été publiées viennent toutes des États-Unis quasiment. Et donc, il y a quand même un biais, je pense, parce que les méthodes d'éducation ne sont pas les mêmes. Voilà. Et alors, en lecture, en revanche, on voit une nette amélioration. Les enfants, à la fin de l'école maternelle, donc, savent quasiment lire, en fait, pour beaucoup, par rapport aux enfants qui ont suivi la méthode traditionnelle. Et ça, c'est intéressant, évidemment, parce que la lecture, dans notre type de scolarité d'aujourd'hui, et par rapport aux compétences qu'on demande aux citoyens d'aujourd'hui, il faut savoir lire, il faut savoir lire, même pour apprendre tout le reste, même pour apprendre les mathématiques ou l'histoire ou l'économie ou tout ce que vous voulez.
D'où l'intérêt pour le coup de ces pédagogies alternatives. Vous avez aussi interviewé Edouard Gentas, hein, professeur de psychologie du développement, qui dit que finalement elles ont commencé déjà à transformer un peu l'enseignement, ces pédagogies alternatives.
Oui, alors on s'est surtout focalisé sur Montessori, puis on a un autre article d'Olivier Houdet sur Freinet, parce que Olivier Houdet, qui est le neuroscientifique bien connu, dans une vie antérieure a été instituteur, et il était instituteur Freinet, donc c'est quelque chose qu'il connaît bien. Il nous raconte son expérience et qui est assez similaire. Oui, parce que ces pédagogies sont nées au début du XXe siècle. Alors, il faut remettre aussi ça dans le contexte de l'époque. Effectivement, c'était d'autant plus révolutionnaire qu'à l'époque, la pédagogie traditionnelle, c'était pas celle d'aujourd'hui quand même. Hein. Donc voilà, on avait encore le droit de taper sur les doigts des élèves avec les règles. Voilà. Et c'était très très vertical. Et le professeur parlait, les enfants n'avaient pas le droit de dire un mot. Et donc bon, je caricature évidemment, mais on était quand même dans cette posture-là, cette posture de l'autorité et pas du tout de la bienveillance. Voilà. Évidemment, depuis, les choses ont changé. Et l'école d'aujourd'hui ne ressemble pas à ça. Et effectivement, beaucoup de professeurs des écoles, surtout dans le primaire, effectivement, s'inspire de la méthode Montessori ou Freinet, enfin de ce type de pédagogie alternative. Voilà. Mais là, ce qui était intéressant, c'était... Parce qu'une fois que vous vous inspirez d'eux, vous mesurez quoi derrière. Voilà. Là, ce qui était intéressant dans les études dont on voulait parler, c'était qu'effectivement, ça suivait une démarche scientifique. On pouvait comparer à des groupes témoins. C'est ça qui est intéressant.
Et donc, ça marche. En tout cas, dossier complet sur les pédagogies alternatives et leurs bénéfices pour le cerveau de nos enfants. C'est à retrouver dans Cerveau et Psycho de ce mois de décembre, que vous pouvez gagner, chers amis auditeurs. Vous pourrez aussi découvrir ce qui se joue dans notre cerveau quand on entre en transe. Allez, en transe musicale, tout de suite sur RFI, avec la tarentelle électro de Mascari Miri.
Continua. Senti cavallo, io da giù parla, la storia noscia stanno a cantà, sun tullu ballu della tradizione e la taranta non è della pezzica. Sincero ed emozionante, che ancora oggi si sente vibrante. Senti cavallo, io da giù parlà, la storia noscia stanno a cangià, sono tullu ballu del...
Le groupe Mascarimiri sur RFI qui va bientôt nous faire danser sur notre table ronde mensuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique quand la tarentelle du sud de l'Italie nous met en transe. Alors qu'est-ce qui se joue dans notre corps et dans notre cerveau, Cécile Estienne? Vous avez interrogé dans Cerveau et Psycho le célèbre neuroscientifique, l'éminent neuroscientifique Stephen Lorez qui tente de cartographier, c'est ça, notre cerveau en transe.
Oui, exactement. En fait, on avait été intrigués par la sortie sur les écrans du film de Fabienne Berthaud, Un monde plus grand avec Cécile de France, qui raconte l'histoire d'une Française ethnomusicienne partie en Mongolie faire un reportage et puis qui est rentrée en transe et qui a toute une histoire avec la transe derrière.
Corinne Sambrin, qui est devenue apprentie chamane.
Voilà, que l'on a d'ailleurs aussi interviewé dans cet article pour qu'elle nous raconte cette expérience et qui effectivement travaille avec des chercheurs aujourd'hui pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est en transe. C'est une sorte d'état modifié de la conscience qui ne ressemble pas, mais qui pourrait être du même ordre que l'hypnose ou la méditation. Alors, c'est des recherches qui commencent tout juste, donc il n'y a pas encore grand-chose à en dire. Mais donc, Stephen Lorez, en Belgique, travaille dessus. On a déjà vu des choses. On a vu, par exemple, que l'activité du cortex semble diminuer, la matière grise, et c'est des régions plus profondes du cerveau qui semblent s'activer que lorsqu'on est en transe. Alors, de là à dire que c'est des pulsions animales qui remontent, ça, on ne sait pas du tout.
Oui, ça serait facile. Il faut aller trop loin, il ne faut pas extrapoler.
On ne sait pas, mais franchement, c'est un début, puisque les recherches sur l'hypnose et la méditation ont été très fertiles, c'est intéressant de regarder. Et ça peut se faire aussi grâce à Corinne Sambrin quand même, parce que effectivement, toutes ces recherches qui se font dans des machines, d'IRM par exemple, ou d'électroencéphalographie, ça ne peut pas se faire quand vous dansez la tarentaise, par exemple, et jouez du tambour et des choses
comme
ça.
Oui, c'est ça, on ne peut pas bouger comme ça dans l'IRM.
Ce n'est pas possible, mais elle, après toute son expérience, a appris à se mettre en transe sans bouger et sans son extérieur.
Et donc,
elle
c'est
l'a
comme
appris
ça qu'on
à
peut
d'autres.
Étudier.
Et donc, on a donc aujourd'hui des cobayes, entre guillemets, qui acceptent de faire ça. Et on va pouvoir en savoir beaucoup plus d'ici quelques années.
Quand on pourra cartographier véritablement notre cerveau en transe, qui est une, vous l'avez dit, Cécile, un état modifié de conscience. Alors, ça fait partie aussi de ce qu'on peut appeler désormais la science de la conscience. Philippe Pageot, c'est un champ de recherche énorme, complexe. Nous sommes du coup nous-mêmes l'objet et le sujet de l'étude. Mais ça avance, la science de la conscience, et c'est le gros dossier de la recherche de ce mois-ci.
Effectivement, donc, c'est pour rebondir à ce que disait Cécile, ça c'est dû à, effectivement, au progrès aussi qu'il y a eu en imagerie. On arrive à faire en combinant des tas d'imagerie, on peut commencer à cartographier, à voir des choses qui se passent quand on fait des actions. Et notamment, là, ce qui a changé, c'est que c'est le rapport subjectif qui est devenu au centre des expériences, alors qu'auparavant, on était plutôt sur la cognition.
On laissait ça de côté.
On était sur la cognition. Donc ça, c'est vraiment ce qui est nouveau. Et c'est une science qui est devenue mature, qui est vraiment avec des expériences qui vont permettre de discriminer entre les différentes théories de la conscience. Est-ce qu'elle émerge partout dans le cerveau? Est-ce qu'il y a des zones, etc.? Et ce qui est un aspect intéressant, c'est pour aussi rebondir avec ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est qu'en fonction des théories de la conscience qui vont émerger, donc c'est l'expérience qui vont commencer en 2020, on pourra dire des choses sur la conscience ou pas des animaux. Donc vous savez que les animaux, on réussit pas mal
beaucoup
entre
le test du miroir,
mais finalement le test du miroir c'est une information partielle
sur
ils se reconnaissent, mais c'est une information partielle sur la conscience de soi, et en fait ça reflète qu'un niveau de conscience de soi, pas une capacité de haut niveau ou sa propre expérience. Et donc c'est en train de se vraiment un champ qui en 2020, on va dire, ou dans les années à venir, comme pour la transe, va devenir un sujet central autour du cerveau.
Toutes les pistes de recherche donc, sur cette science de la conscience sont à lire dans la recherche autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Carole Châtelain, il y a le microbiote aussi qui est partout. Alors on le découvre dans Science et Vie, dans notre bouche. Dans Science et Avenir. Mais oui, c'est dans Science et Avenir qu'on parle du microbiote.
Exactement.
Et qu'on apprend qu'il faut bien se brosser les dents.
Alors, le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries. Il faut rappeler, c'est l'ancienne flore, on appelait ça la flore avant. Et le microbiote buccal, c'est l'un des plus riches que nous ayons, puisque chaque individu recèle environ 250 à 300 espèces de bactéries.
Alors, dans notre bouche.
Dans notre bouche. Alors la nouveauté, c'est qu'on vient de s'apercevoir qu'un déséquilibre dans le microbiote buccal a des conséquences très importantes. Alors,
Alors on pense immédiatement, ah oui, je vais avoir des caries, mm-hmm. je vais avoir une parodontite. Oui, ça c'est sûr, on va l'avoir. Mais pas seulement. Parce que si la situation se dégrade, les bactéries et des éléments inflammatoires passent dans la circulation sanguine. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement grave, puisqu'on peut aller jusqu'aux infarctus, par exemple. Et notamment, il y a eu des expériences qui ont montré qu'une parodontite était parfois associée à des troubles cognitifs. Et sur les souris, c'est une expérience menée sur les souris, on a retrouvé dans le cerveau des souris qui avaient une parodontite des éléments de la maladie d'Alzheimer. Donc, on s'aperçoit qu'en fait,
le rôle
du microbiote buccal est absolument essentiel à la santé de l'organisme. Il ne faut absolument pas le négliger. Quasiment tous les organes sont touchés si jamais il y a un déséquilibre. Alors, nous donnons dans notre magazine Science et Avenir un certain nombre de conseils parce que pour éviter ça, alors je n'en donnerai qu'un. Il faut par exemple éviter de faire des bains de bouche de façon tout à fait régulière parce que ça, c'est terrible. Mmh. On tue les bactéries qui nous sont favorables et on peut se laisser coloniser par de nouvelles espèces qui le seraient moins.
Donc, pas de bain de bouche, mais se brosser les dents quand même. Hein.
Alors, se brosser les dents, oui, alors évidemment, procéder à un détartrage annuel, etc. Le stress aussi est un facteur de déséquilibre du microbiote buccal.
Donc, à surveiller notre microbiote buccal avant de se quitter. Allez, Thomas Cavaillé-Folle, un petit tour d'avion supersonique, c'est ça ?
Exactement. En fait, vous savez, depuis 2003, depuis qu'on n'utilise plus le Concorde, en fait, les avions civils ne passent plus le mur du son. Il n'y a pas le fameux bang, tout ça. Et en fait, là, en 2022, sur le territoire américain, il va y avoir de nouveaux avions supersoniques civils, donc qui vont aller plus vite que le mur du son, 1230 km/h pour être exact. Et vous savez, normalement, à ce moment-là, il se produit le fameux bang, là, qui ce bruit assourdissant qui montre qu'on a franchi le mur du son, tout à fait. Et en fait, la physique va permettre de passer le mur du son sans
le bang.
Sans le bang. Et donc, à Science et Vie, on fait un petit tour de tous les projets qui sont sur le... On vous présente un peu tous les avions qui seront capables de faire ça. Alors, on a un avion sans hublot, un avion avec les ailes coupées, et même un avion qui promet d'aller 5 fois plus vite que le mur du son, Mach 5.
À lire, pour s'envoler au moins en imagination dans Science et Vie. Merci Thomas Cavaillé-Folle, merci Cécile Estienne, merci Carole Châtelain, merci Philippe Pajot. Ah oui, vous voulez me montrer, Philippe Pajot, la biodiversité en péril, numéro spécial de la recherche, dont nous avons évidemment, comme Science et Avenir, Cerveau et Psycho et Science et Vie, quelques exemplaires à vous faire gagner, chers amis auditeurs, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. Quant à nous, chers consoeurs et confrères, on se retrouve l'année prochaine, en 2020. Merci. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Nachowski au micro. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour parler d'amour et de sexualité. Autour de l'exposition de l'amour au Palais de la Découverte, quand les scientifiques s'intéressent au sexe et à nos affects. Merci pour votre curiosité, chers amis auditeurs. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.